je me suis proposé d'appeler cette courte communication un anti-titre qui pourrait être effacer la mémoire. Les Suspended Species, tel que j'ai compris le projet qui porte ce nom, ne sont pas exactement ce que Marc Roger, dont vous connaissez peut-être le livre, a appelé des non-lieux. Ce qui m'autorise à dire que ce ne sont pas des non-lieux, en suivant sur ce point la proposition conceptuelle de Marc Roger, ce qui m'autorise à dire que ce ne sont pas des non-lieux, c'est leur historicité, c'est leur dimension historique. Le problème que je vois, c'est que cette historicité, qui est à la rigueur, comme vient de le dire en terminant Eric Vallet, accessible à des récits, n'a pas de forme. L'historicité n'a pas de forme. Je ne parle pas de l'architecture qui est l'ordre. Je n'envisage pas sous cette notion de forme l'idée de faire un quelconque monument. J'y reviendrai très rapidement en conclusion dans quelques minutes. J'envisage plutôt quelque chose comme une authentification du lieu avec son histoire. Pour l'instant, les suspendus spécistes, tels que je les comprends, sont plutôt des pseudo-lieux, des lieux qui ne bénéficient pas d'une franche association de la forme et de la fonction. J'oserais même dire que, dans le cas qui nous occupe ce matin, la fonction majeure du lieu dans son état est de lutter contre sa forme. S'il demeure dans cet état, et aussi longtemps qu'il y demeure, c'est pour faire défaut, justement, à une affirmation formelle aboutie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette franchise dont j'essaie de parler? Qu'est-ce que c'est que cette affirmation formelle? Quelque chose qui va jusqu'à l'affirmation formelle. Je dois à Marc Roger, dont je critique par ailleurs la notion de non-lieu, une particulière attention à un texte de Jean Starobinski sur l'esprit moderne, ce que j'appellerai tout à l'heure pour ma part strictement modernité. Il est question dans ce texte de Starobinski, je cite, des figures pré-modernes dont l'écrivain moderne entend montrer qu'il ne les a pas oubliées au moment même où il s'en affranchit. Les figures pré-modernes dont l'écrivain moderne entend montrer qu'il ne les a pas oubliées au moment même où il s'en affranchit. Fin de citation. S'affranchir du poids, de la charge, d'une histoire, et ne pas l'oublier. Plus exactement, affranchir formellement une historicité, s'affranchir formellement d'une historicité, telle est la gageure, à relever ici, non plus dans l'écriture, mais dans l'architecture. Ce qui est en l'occurrence à l'origine du problème, en fait de la guerre explicite dans laquelle l'architecture de Niemeyer s'est trouvée prise au Liban, de la guerre larvée, culturelle, dans laquelle la position de principe de ce genre d'architecture aujourd'hui se trouve, ce qui donc est à l'origine du problème et de cette guerre plus ou moins explicite ou plus ou moins larvée, plus ou moins effective ou plus ou moins culturelle, ce n'est pas le bâti même, c'est d'abord la volonté imprudente qui a présidé à la requête de ce bâti, qui l'a commandé en quelque sorte. Ce sont les forces et les raisons qui ont requis l'architecture en cause, architecture aujourd'hui devenue symptôme. La catégorie permettant de nommer ces forces et ces raisons n'est pas modernité, mais modernisme. J'ai écrit un livre que j'ai intitulé « Moderne sans modernité », dans lequel j'ai proposé de distinguer aussi soigneusement que possible entre trois notions. La modernisation, le modernisme et la modernité. La modernisation me semble être le fait constant des poussées techniques et morales, fait qui éloigne sans cesse les mœurs de ce qu'ils étaient et des conditions dans lesquelles ils pouvaient se tenir. Je joue au passage sur l'étymologie du mot moral, hein, qui peut être rapproché de mœurs. Les êtres humains sont ces êtres qui, qui peuvent et qui ne se gênent pas pour changer de mœurs continuellement, et ça s'appelle l'histoire. Cette modernisation, cette historicité, est aussi vieille, si j'ose dire, que la Grèce antique. Je pense qu'on peut renvoyer au moment grec de l'histoire humaine l'autorisation de modifier ces modes de vie, les changements techniques et moraux dont je viens de parler très rapidement. Pour diverses raisons qui seraient bien entendu trop longues à développer ici, je peux comprendre que ces poussées modernisatrices, dont la pensée grecque aura été l'autorisation, je pense en disant ces choses à la lecture que j'ai faite ou refaite récemment de Hérodote, en me disant que Hérodote raconte le premier conflit entre l'Orient et l'Occident, la défaite du grand roi qui ne voulait pas sa change par les Grecs, qui au contraire poussaient en avant la possibilité d'une représentation historique de la vie humaine. Donc pour diverses raisons qui seraient trop longues à développer ici, je peux comprendre que ces poussées dont la pensée grecque aura été l'autorisation, voyez Hérodote sur ce point, je peux comprendre que ces poussées se fassent la plupart du temps en douce. Elles passent en douce. Le modernisme, et pas la modernisation, le modernisme est ou aura été une position par rapport à ces poussées modernisantes. Le modernisme entend, il a entendu affirmer délibérément, c'est-à-dire rompre manifestement, hein, c'est-à-dire pousser délibérément au changement. L'architecture qu'on peut dire strictement moderniste est le manifeste d'une rupture dans les conditions de construction, par exemple. En ce sens, il y a déjà eu, même si le nom manquait, des moments modernistes dans l'histoire de l'architecture bien avant le XXe siècle. Par exemple, le gothique. Disons que nous n'avons jamais été modernes, vous connaissez sans doute cette phrase, Bruno Latour a voulu dire, à mon sens, que pareille volonté de rupture était foncièrement insensée. Je pense, de mon point de vue, que la juste version de la phrase de Bruno Latour, nous n'avons jamais été modernes, serait nous n'avons jamais été véritablement modernistes. J'ajouterai ici que le modernisme s'expose à des réactions, à des sursauts réactionnaires qui peuvent être violents. Ce genre de sursaut n'est sûrement pas étranger au Liban, ni en face du projet de foire, c'est-à-dire de la radicale et insupportable pour lui mutation économique dont l'architecture niméière devait être non pas la cause, non pas le fondement, mais justement le manifeste. Mais la modernité, c'est autre chose. La modernité, c'est un concept beaucoup plus précis qu'on ne l'admet souvent, non pas lié au temps moderne, au modernisme des temps modernes, mais lié à un travail confié aux artistes depuis Baudelaire, travail d'articulation formelle du nouveau et de l'ancien, de l'articulation du nouveau avec l'ancien. J'affirmerai ici, sans pouvoir le démontrer faute de temps, que la forme générale de la modernité, c'est l'écart. J'ai tenté dans mon livre de donner quelques éléments de déclinaison possible de cette forme. La question est donc de savoir comment peut se manifester formellement ou se réaliser jusque dans les formes la tension de l'histoire, l'écart substantiel d'une historicité qui tient au passé tout en y étant plus. Dans le cas de l'architecture de Niemeyer, désormais historique, il s'agirait ni de l'achever, me semble-t-il, selon son projet comme si rien n'était arrivé, ni de la conserver pieusement dans son état de ruine, c'est-à-dire de monument du sursaut antimoderniste. Il s'agirait de faire quelque chose avec son état de fait, dans un esprit de montage, de jointure, d'articulation et non pas de synthèse. Cela dit, je ne suis pas architecte. Je peux imaginer ce qui arrivera au lieu, ce qui lui arrive déjà si rien de singulièrement moderne ne lui est fait. Il sera modernisé, ainsi qu'il a déjà commencé à l'être en bordure avec la transformation en barre hôtelière dans l'enceinte de la foire, de l'architecture aérée de logement qu'avait réalisé Niemeyer. C'est ce genre de modernisation perverse qui efface, plus sûrement que le modernisme même, l'histoire.